Attendez. Session de théologie par le père Marie-Dominique Philippe à Rimont, le 27 août 1993, 13e conférence.
Si l'Esprit Saint est semblable au Père et au Fils, pourquoi ne peut-on pas dire qu'il est engendré? Il n'est pas semblable, il est un. Il y a des rigueurs du langage. La similitude, c'est l'unité dans la qualité. Et l'unité, c'est l'unité dans l'être. Le Père et moi, nous sommes un. Il ne dit pas le Père et moi, nous sommes semblables. C'est très important quand il s'agit du mystère de la Sainte Trinité, vous comprenez. C'est comme ça que se font toutes les petites déviations. Vous voyez, dans un mystère qui nous dépasse complètement, il y a un langage précis de la tradition que nous devons respecter. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas employer n'importe quelle philosophie au point de vue théologique. Mais une philosophie qui ne voit que le point de vue de la qualité, sans voir ce que c'est que l'être, ben elle dirait oui, ils sont semblables. Alors à ce moment-là, vous aboutissez. C'est très bien de poser les questions. J'aime beaucoup mieux que vous les posiez que vous disiez après coup. Oui, pendant la session de monde, on a dit que le Père et le Fils étaient semblables. Non, ils sont. Ah. Si j'ai dit semblable, je me suis trompé. Mais je ne crois pas l'avoir dit, mais ça peut arriver. Pouvez-vous reprendre l'analogie entre l'Esprit Saint et l'ami qui vit tout entier de l'attraction d'amour. Donc pour la première, c'est simple. Hein. L'Esprit Saint et le Père sont un. Je ne peux pas dire qu'il est engendré. Pourquoi? Parce que la procession selon l'amour n'est pas une procession qui fait que le terme est un avec le point de départ. N'est pas selon un mode de similitude, comme pour l'engendrement. Tandis que, oui, alors c'est une notion évidemment théologique qui essaie d'expliquer pourquoi la relation du Fils, du Verbe au Père, est une relation de Fils à Père. Tandis que la relation de l'Esprit Saint au Père est une relation d'amour pur. Alors c'est sûr, en réalité, l'Esprit Saint ne fait qu'un avec le Père, comme le Fils ne fait qu'un avec le Père. Mais, puisque Dieu nous révèle, il y a le Fils et l'Esprit Saint. On essaie de comprendre le mieux qu'on peut comment le Verbe est Fils et comment je ne dis pas que l'Esprit Saint est Fils. Ça ne veut pas dire du tout qu'il est plus loin du Père que le Fils. Pas du tout. Alors là, ce serait remettre l'imagination. Il est un avec le Père aussi. Mais le lien de procession du Père à l'Esprit Saint n'est pas le même. ceci, c'est pour ça que dans le langage même de la révélation, il y a quelque chose de distinct qui nous est montré. Alors, la seconde question. L'Esprit Saint. L'analogie qu'on prend, c'est l'amour. C'est bien l'analogie. L'Esprit Saint procède selon le point de vue de l'amour, et de l'amour spirituel. On ne dit pas tout de suite l'amitié, on prend l'amour. Et il y a un fruit à l'amour, propre à l'amour, qui est justement ce que nous pouvons contempler grâce à la foi dans le mystère de l'Esprit Saint. Et nous pouvons alors, si tu restes très curieux, saint Thomas, dans le Contra Gentiles, prend l'analogie de l'amour d'amitié, il ne le reprend plus dans la Somme. Je ne dis pas qu'il y a des rétractations, mais je crois que l'amour d'amitié risque toujours de ne pas avoir une purification suffisamment grande. Puisque l'amour d'amitié implique une réciprocité. Or, l'Esprit Saint est l'Esprit Saint tant qu'il reçoit tout du Père et du Fils. Tandis que l'ami n'est ami que s'il y a la réciprocité. Alors je crois que c'est à cause de ça que saint Thomas ne maintient pas, mais on peut le dire. Il suffit de comprendre ce qu'on dit quand on prend cette analogie. Cette analogie de l'amour d'amitié montre que l'amitié implique un amour parfait au point de vue humain. C'est évident que au point de vue humain, quand il n'y a pas réciprocité, l'amour ne peut pas se réaliser aussi bien. On a tous fait cette expérience-là. Quand on aime quelqu'un profondément, spirituellement, pas passionnellement, parce que dans la passion, ça arrive tout le temps, hein. On aime passionnément quelqu'un, puis cette personne nous exalte, apparaît comme totalement indifférent. Et si elle est intelligente, plus elle sent qu'on la poursuit, plus elle semble complètement indifférente. Dans l'amour passionnel, ça arrive souvent, dans l'amour spirituel, on peut aimer vraiment quelqu'un pour lui. On ne sait pas s'il nous aime. On ne sait pas si c'est réciproque. On voudrait bien le savoir. Alors c'est toute l'histoire de tous les romans. Il y a des confidents pour savoir s'il m'aime ou pas. Bon. On se sert de médiateur, on a quelqu'un qui est tout proche pour savoir qu'est-ce qu'il pense de moi, qu'est-ce qu'il a dit sur moi. C'est tout comme ça, il reste dans la fébrilité. On reste dans la fébrilité quand on ne sait pas si l'autre aime. Si l'autre, ah, oh, il t'aime énormément, tu sais. Il n'ose pas te le dire. Oh alors, merveille. Ça pacifie tout, le caractère fébrile disparaît complètement et il y a un repos. Parce que l'amour peut avoir un repos dans celui qui m'aime. Il peut se reposer grâce à la réciprocité. Alors, l'analogie porterait sur le fait que dans l'amour d'amitié, l'amour spirituel est parfait. Et quand Dieu, on est en face, en effet, d'un amour parfait. Ne prenez pas l'analogie dans le sens où il faut dire ils sont deux à s'aimer et il y a un fruit à cet amour. Ça n'irait pas, ça. Parce qu'alors à ce moment-là, vous devriez dire que le Père et le Fils ne sont plus dans l'unité comme source de l'Esprit Saint. Alors ce serait une fausse analogie. Je reviens un instant à propos des charismes. Vous voyez, je n'ai pas traité à fond cette question des carrés, je suis tout à fait d'accord. Je suis simplement situé. Il y aurait beaucoup à dire. Beaucoup à dire sur les charismes aujourd'hui. Il y aurait d'abord à étudier très à fond ces différents chapitres des Corinthiens, qui sont très beaux. Lisez-le. Et il faut comprendre que, comme la grâce provient d'Esprit Saint, les charismes proviennent de l'Esprit Saint. Or, Dieu ne fait jamais rien en vain dans l'ordre de l'amour. Et donc, les charismes ont une finalité. Et cette finalité, je vous l'ai dit ce matin, c'est pour la sanctification de l'autre. Alors, ordinairement, c'est ce qu'on dit, que le charisme ne sanctifie pas directement celui qui a le charisme. On peut prêcher admirablement, avoir le charisme du cerveau sapientier, et beaucoup moins bien recevoir le contenu du sermon que celui qui l'écoute, qui a beaucoup plus d'amour. C'est sûr. Comment le prédicateur se sanctifierait très vite, puisqu'il prêche toute la journée. Et ceux qui l'écoutent se sanctifient enfin, beaucoup plus que lui, parce qu'ils sont plus pauvres, plus aimants. Alors ils peuvent se sanctifier beaucoup plus. Oui. C'était cette fameuse chose qu'Aristote donne, c'est très différent, mais on peut faire une petite analogie. Ceux qui vont au théâtre, ceux qui écoutent et qui voient, sont plus contemplatifs que ceux qui agissent. C'est la même chose. Quelle est la finalité de la prédication? C'est pas pour le prédicateur, c'est pour ceux qui écoutent. Quelle est la finalité de l'enseignement? C'est pour ceux qui écoutent, c'est pas pour celui qui donne le cours. Et donc, c'est celui qui écoute et qui reçoit, qui vit pleinement de l'enseignement et de la prédication. C'est gênant de devoir parler en même temps que d'écouter. Tandis que celui qui est uniquement à l'écoute, ben il est totalement à ça, il peut recevoir beaucoup plus. Mais pour que quelqu'un écoute, il faut que quelqu'un parle. Condition sine qua non. C'est nécessaire. Il faut que quelqu'un puisse être instruit, il faut que quelqu'un l'enseigne. Et c'est pour ça que c'est un service de miséricorde, l'enseignement. C'est un service de miséricorde pour les autres. Et il y a un charisme pour le service d'enseignement, cerveau sapientier. C'est très beau de voir que l'Esprit Saint vient à la suppléance de celui qui enseigne, surtout la philosophie et la théologie, et je crois à toutes les matières, et surtout la parole de Dieu, c'est évident, et avant tout. Alors, comprenons que du côté de l'Esprit Saint, il y a une unité profonde, c'est toujours la communication de l'amour. Et les charismes, c'est les communications de l'amour. Et en vue de l'amour pour celui qui en jouit, celui qui reçoit le fruit du charisme, pas celui qui coopère, mais celui qui coopère se sanctifie quand même. Coopérer avec l'Esprit Saint, ça sanctifie toujours. Toujours. Donc si dans le charisme on coopère avec l'Esprit Saint, ça nous sanctifie. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Alors tant de temps qu'on coopère avec l'Esprit Saint, on fréquente l'Esprit Saint. On est proche de lui. Et à ce moment-là, on sanctifie. Ça, c'est évident. L'enseignement vous purifie, vous dépouille, puisqu'on est toujours pour les autres. La prédication vous dépouille, puisque c'est pour les autres. C'est pas pour soi. Donc c'est exactement comme toute œuvre de miséricorde. Ça vous dépouille, ça vous oblige d'être plus pauvre. Alors, voyez, il y aurait à regarder comment saint Paul hiérarchise les charismes. Puisqu'il y a un ordre. pas du tout anarchique, il y a un ordre. Puis il y aurait la grande question de savoir, doit-on demander l'égarisme? Doit-on demander le charisme de guérison? Pour avoir un peu plus de public à cette prédication. Doit-on demander le charisme des langues? C'est très curieux. Hein. Là, ce serait très intéressant de faire une petite enquête au point de vue de la théologie de l'Église. Il est évident que quelqu'un comme la grande Sainte Thérèse, elle dit qu'il ne faut pas demander les charismes. Peut-être sauf le charisme de sermo sapientiae, le charisme de science, le charisme de la foi, qui sont toujours liés au témoignage, qu'on demande d'être de vrais témoins de la vérité, de vrais témoins de l'amour du Christ, je crois que ça on doit le demander. Mais demander le charisme de guérison, voyez, si un des frères de Saint Jean, sans demander la vie à son prieur, demander le charisme de guérison, et il serait sûr d'avoir le charisme de guérison, puisqu'on sait quand on a un charisme. Ça aurait un gros succès. Non. Et en même temps, ce serait très très gênant. Vous voyez, s'il est étudiant, s'il est novice, il ne peut plus l'être. C'est vrai, ça. Il serait demandé toujours au parloir. Est-ce que frère Jean est là? Parce qu'il guérit tout. Il n'a qu'à imposer les mains, et puis ça y est, tous les maux de tête disparaissent. Si le Saint-Esprit nous le donne, très bien. On s'en sert divinement. Je crois que, à part ces charismes du sermo sapientiae, en vue de l'apostolat, du sermo de science, pour l'exorciste, discerner l'action de l'Esprit Saint, l'action du démon, discerner ce qui est imaginaire, et ce qui est imaginaire infecté par le démon. Ça implique un sermo de science, parole de science. Ce qui est sûr, c'est que vous n'avez pas la certitude métaphysique absolue de la croissance de la charité en vous, ni de la charité tout court, tandis que vous savez que vous avez tel charisme. Vous devez le reconnaître. Vous voyez comme c'est curieux. On sait qu'on possède tel charisme, mais le charisme est en vue de la grâce sanctifiante. Et la grâce sanctifiante, on n'a qu'une certitude pratique. Vous ne pouvez jamais dire de façon absolue, je suis dans la grâce, je suis saint, j'ai la charité, et elle grandit tous les jours. Vous verrez au bout de quelques années ce que je serai. On ne peut pas le dire, ça. Non seulement parce que ce serait un manque d'humilité, mais parce que vous ne le savez pas. On a une certitude pratique de la charité qui nous permet d'agir. Vous savez la parole de Jeanne d'Arc? Au procès de Jeanne d'Arc, quand on lui a demandé s'il était en état de grâce. Ça, c'était une question piège. Alors Jeanne d'Arc a répondu qu'elle l'espérait et que si elle n'était pas, elle suppliait Dieu de la mettre en état de grâce. C'est une rectitude absolue. Sorte que on ne pouvait pas dire. Et toutes ces réponses sont comme ça. Vous avez sous la main le procès de Jeanne d'Arc. Il faut le lire. C'est une merveille. précision et de netteté. Alors je voudrais terminer, puisqu'il faut terminer. Ça ne se termine pas, hein, quoi, une session sur l'Esprit Saint. Parce qu'à la fin de la session, on dit, il y a tellement de choses à dire, encore. C'est vrai. Et puis vous voyez, c'est tout le mystère de la très sainte Trinité. J'espère que ça vous l'avez compris. Je voudrais regarder l'Esprit Saint et Marie, l'Esprit Saint et l'Église. Mais je regarde d'abord l'Esprit Saint et Marie. Marie, elle est le chef-d'œuvre de l'action de l'Esprit Saint. Marie est le chef-d'œuvre de la création et de la reprise de tout dans la grâce. Je ne dis pas recréation, puisque la question avait été posée, on n'a pas répondu. Dans quelle mesure pouvons-nous dire que la grâce nous recrée ? Bon, ce n'est pas tout à fait juste, mais pour notre esprit, puisque notre vie, c'est notre être. Et comme la grâce apporte une nouvelle vie, on peut dire qu'elle apporte un nouvel être. Et ce n'est pas tout à fait juste au point de vue métaphysique. Mais c'est juste dans le langage courant. Il y a beaucoup de choses qui sont comme ça, qui sont juste dans le langage courant et qui ne sont pas assez précises dans le langage métaphysique. Dans le langage mystique, on peut dire que la grâce est une recréation. Et dans un langage très précis, métaphysique, la grâce n'est pas une recréation, puisqu'il ne peut pas y avoir de recréation. Il y a une création tout court, c'est suffisant. Il peut y avoir une relecture de nos actes, mais il ne peut pas y avoir une recréation. Alors, Marie est le chef-d'œuvre de l'Esprit Saint, Marie est le chef-d'œuvre de la création. Je crois qu'on doit regarder ces deux aspects pour bien situer le mystère de Marie dans l'économie divine. Elle est celle qui, parmi toutes les créatures, est la plus aimée. La plus aimée même que les chérubins et les séraphins. La plus aimée de tous les hommes et de toutes les femmes. Donc, elle est bien chef-d'œuvre de l'amour divin. Mère de cristal. Elle n'est pas la créature la plus parfaite du côté de l'intelligence. Mais elle est la créature la plus parfaite du côté de l'amour. Elle est la femme par excellence. C'est en elle où l'âme et le corps sont dans une unité la plus parfaite, dans une harmonie la plus parfaite. Et c'est en elle où toute la création trouve son terme. Et c'est là où on voit très bien que l'évolution dit des choses qui ne sont pas tout à fait justes, puisque aucune créature humaine ne dépassera Marie. Donc l'évolution cesse avec elle. C'est sûr. Le Parisien de 1993 n'est pas plus parfait que Marie. La Parisienne n'est pas plus parfaite que Marie. Vous vous souvenez quand il y avait eu cette exposition au Trocadéro, on montrait l'évolution. Puis alors ça se terminait par une glace, grande glace, pour que le Parisien trouve qu'il était au terme de l'évolution. C'était fait avec beaucoup d'humour. Exprès. Pour qu'on relativise pas mal de choses. Et sûrement qu'au point de vue de la création, Marie est au sommet. Il y a une grande montée jusqu'à elle. Et je ne dis pas qu'après on est sur un haut plateau et que tous ceux qui viennent après Marie, toutes les femmes qui viennent après Marie sont égales à Marie. Non. Et je ne dis pas qu'il y a une dégringolade. Pas du tout. Elle est au sommet. C'est très beau de dire ça parce qu'alors elle donne le sens de la création. C'est elle qui donne le sens. C'est la femme qui donne le sens à la création. Non seulement le sens de l'union du corps et de l'âme. Pourquoi Dieu fait-il son chef-d'œuvre dans l'union de l'âme et du corps? C'est Marie qui l'explique. Le chef-d'œuvre de Dieu, ce n'est pas un chérubin, ce n'est pas un séraphin. Elle est la reine des anges et des chérubins et des séraphins. Et c'est là où on voit combien il y a dans ce mystère de Marie quelque chose d'unique au plan création. Elle est la femme. Jésus, il n'est pas au sens strict une créature puisqu'il est Dieu. C'est sûr que la nature humaine du Christ est unique. Parce qu'elle est unie personnellement au Verbe. Mais ce n'est plus une pure créature. L'âme du Christ est créée. Mais le Christ en lui-même est Fils de Dieu. Donc il n'est pas une créature. Il est au-dessus. Tandis que Marie est une petite créature, la plus fragile de toutes, la plus sensible de toutes. Il n'y a pas une seule sensibilité aussi parfaite que celle de Marie. Il n'y a pas une harmonie plus parfaite que dans le corps de Marie. Il y a une perfection absolue. Absolue quant au corps humain, comprenez bien. Quant au corps de la femme, il ne peut pas y avoir de femme plus parfaite, plus sensible, plus capable d'aimer. Si Dieu a uni le corps à l'esprit, c'est pour pouvoir communiquer plus d'amour. C'est pouvoir communiquer une capacité de fécondité. Et la fécondité que Marie a connue est la fécondité la plus parfaite. Être mère du Fils de Dieu. Et être mère divine, mystique de Jean et de toute l'Église. Il y a là quelque chose d'unique. Que le corps humain, que le corps d'une mère ait formé le corps d'un Dieu. Et si notre corps est le temple de l'Esprit Saint, par la grâce, le corps de Marie, elle est la source de la tête du Saint des Saints. C'est Albert le Grand qui peut-être, parmi les théologiens, a le mieux compris ça. Parce qu'il était très proche de la nature. Alors, il est ravi de cela. Il est dans l'admiration. Moyen-Âge, on avait très fort le sens du corps, beaucoup plus que nous. Parce que, entre le Moyen-Âge et nous, il y a eu Descartes. Et il y a eu toute cette période de rationalisme, toute cette philosophie idéaliste. Tandis que au Moyen-Âge, ils étaient encore très proches d'un réalisme très grand. Du point de vue de la grâce, Marie est celle qui a le plus reçu de la plénitude, nous avons tous reçu de la plénitude de grâce du Christ. Marie a reçu plus qu'aucune autre créature. Et sa grâce est plus parfaite que celle des anges, sa grâce sanctifiante. Elle a quelque chose d'unique. Ceci, nous avons l'affirmé très fort, ce qui fait comprendre que Marie est la créature la plus proche de la très sainte Trinité, la plus proche du Père, la plus proche du Verbe incarné et la plus proche de l'Esprit. Il y a un lien tout à fait particulier de Marie à l'égard du Père, à l'égard du Verbe et à l'égard de l'Esprit. Le lien particulier à l'égard du Père, j'allais dire, se comprend dans la foi, c'est une compréhension, c'est l'intelligence de la foi, se comprend dans la lumière du mystère de l'Immaculée Conception. Parce que c'est la miséricorde prévenante qui fait comprendre combien le Père a, vis-à-vis de Marie, un regard paternel unique. Il la soigne comme la prunelle de son œil. Il veut qu'elle soit tout enveloppée de la miséricorde du Père. Et d'une miséricorde prévenante, c'est-à-dire d'une miséricorde qui, qualitativement, est la plus parfaite qui soit. On comprend ça tout de suite, dès qu'on essaie de comprendre la différence d'être là miséricordieux pour quelqu'un qui tombe, qui s'abîme, et être miséricordieux d'une manière prévenante, c'est-à-dire devancer, empêcher la chute, arrêter avant. Marie est enveloppée d'une miséricorde prévenante. J'allais dire, la miséricorde prévenante, elle est la miséricorde qualitative du Père, comme Père. Il y a le Père de l'enfant prodigue, et il y a le Père de Marie, de l'Immaculée. Et faites la comparaison entre les deux. Et vous comprendrez tout de suite comment la miséricorde la plus paternelle, c'est la miséricorde prévenante. Elle prévient. Et elle enveloppe. Il y a quelque chose de maternel dans cette miséricorde prévenante. Elle est paternelle et maternelle. Et il y a sûrement ce lien très extraordinaire entre Marie et le Père, entre la paternité et la maternité de Marie. Pour comprendre la maternité divine de Marie, comprendre, toujours dans la foi, avoir l'intelligence de la foi de la maternité, il faut regarder la paternité. Parce que la maternité divine de Marie est une maternité contemplative, virginale. une maternité où Marie donne tout ce qu'elle peut donner comme mère. Il y a quelque chose d'unique, puisque elle coopère avec l'Esprit Saint. Plus on coopère avec une cause efficiente, parfaite, avec un être parfait, plus notre potentialité est actuée, plus notre potentialité est radicalement actuée, et plus par le fait même, cette potentialité peut s'exercer parfaitement. Marie est mère sous l'action de l'Esprit Saint. Sa maternité coopère avec l'Esprit Saint. Plus juste, l'Esprit Saint coopère avec Marie mère. Et les deux sont vrais. La maternité humaine en Marie s'achève dans l'Esprit Saint. D'un titre de noblesse pour toutes les mères. Et qui fait comprendre la grandeur de la maternité. En raison de son caractère particulièrement pauvre et réceptif, enveloppant. Il faut creuser cela dans un regard contemplatif. Parce que c'est tellement grand de voir le lien de Marie avec le Père. Un petit enfant bien-aimé du Père, enveloppé de cette miséricorde prévenante. Et cette miséricorde prévenante de l'Immaculée Conception est en vue de cette grâce unique d'être la mère du Fils bien-aimé. Et donc, de manifester d'une certaine manière la paternité. Jésus entier relatif à l'égard du Père. Étant tout entier relatif à l'égard du Père, il est tout entier relatif à l'égard de Marie. Puisque c'est toujours le Fils qui fait comprendre la maternité. Et plus le Fils est parfait, plus la maternité est parfaite. Puisque le Fils ici est Dieu, ce qui fait que la maternité divine de Marie se termine en Dieu. Ce qui fait comprendre, voyez, parce que là il y a une petite querelle, certains ont peut-être entendu ça et il faut mettre les choses très au point. Ce qui fait comprendre qu'on ne doit pas discuter la question si Marie a eu conscience dans sa foi que son fils était fils de Dieu. Certains aujourd'hui, certains exégètes disent oh non, c'est impossible. Parce qu'ils réfléchissent sur la foi de Marie en fonction de la foi de l'Ancien Testament. Or, la foi de Marie est plus parfaite que celle des patriarches. Et donc, ce n'est pas celle des patriarches qui va me faire comprendre la foi de Marie. La foi de Marie se comprend comme celle qui, dans l'ordre de la foi, est première. Vous voyez, si Marie avait dit fiat, sans savoir pourquoi elle disait fiat, son fiat serait un mensonge. Ce serait pas vrai. Il y aurait erreur sur le Fils. Pas la même chose de dire fiat par rapport un fils de Dieu, ou un fils qui serait un prophète, qui serait un messie envoyé, de façon très particulière, mais qui ne serait pas fils de Dieu. Tout mouvement prend sa signification de la fin. La maternité se termine et prend sa signification au terme, celui qui est engendré. Si Marie, dans sa foi, n'avait pas compris que son fils était vraiment fils de Dieu, dans sa foi, et dans sa plénitude de foi, sa maternité ne serait même pas humaine. Or, elle est humaine et divine. Elle est parfaitement humaine et parfaitement divine parce que Marie connaît que le terme de sa maternité, c'est vraiment le Fils bien-aimé du Père. Toute la tradition le dit, ça. Et ça, c'est les modernes qui, à cause de méthodes scientifiques qui ne sont pas adéquates au mystère de la parole de Dieu, diminuent la parole de Dieu. Et leur font que les conclusions ne sont plus justes. Il faut saisir ça. Parce que ça fait comprendre ce lien entre Marie et le Père. Et à la croix, Marie accepte cette volonté du Père. Cette volonté du Père infiniment mystérieuse, puisque Jésus pouvait satisfaire entièrement à la faute sans le mystère de la compassion. Et si le Père veut que Marie soit présente, et donc si le Père veut qu'il y ait ce mystère de compassion de Marie, ce n'est pas du tout pour achever et compléter l'œuvre de la croix du côté de la justice. Et c'est pour achever et compléter l'œuvre de la croix du côté de l'amour. Parce que l'amour réclame toujours la surabondance. La justice ne le réclame pas. Je crois ça très important pour mieux saisir le lien de Marie avec le Père. Et la réponse du Père à la prière de Jésus à l'agonie. Père, écarte ce calice. Le calice, c'est-à-dire le mystère de la croix tel que le Père voulait qu'il se réalise. Si le Père veut que ce se réalise avec la présence de Marie et la présence de Jean, c'est pour qu'il y ait une surabondance dans l'ordre de l'amour et de la miséricorde. Dans l'ordre de l'amour et de la miséricorde, il peut y avoir cette surabondance. Et donc, l'instrumentalité de Marie, par sa grâce de mère, et par le lien si intime qu'elle a avec le Père. C'est ce lien avec le Père qui va nous faire comprendre le lien avec l'Esprit-Saint. Je crois qu'il faut toujours regarder ce premier lien de Marie avec le Père. Oui, on pourrait appliquer à Marie ce que je vous disais l'autre jour à propos du chapitre 17 dans l'évangile de Saint Jean, la prière du Fils bien-aimé. Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Je crois que Jésus demandant ça pour lui, le demande aussi pour sa mère. Ceci ferait comprendre le lien dernier de Marie avec le Père. La réalisation de cette glorification profonde de l'âme de Marie à la manière dont le Fils bien-aimé a été glorifié. Alors, comprenons comment ce lien avec le Père se réalise, point de vue de la grâce, par l'humanité sainte du Christ et par l'Esprit Saint. C'est à travers l'Esprit Saint, si j'ose dire, et le cœur blessé de Jésus, que Marie reçoit cette plénitude de grâce, cette plénitude d'amour. C'est le Père qui en est la source première, donc c'est lui qui donne la lumière dernière, la lumière ultime. On dit ordinairement, n'est-ce pas ? Il y a toute une tradition comme celle-là. Je l'ai étudiée d'assez près, puisque on m'a demandé de faire un article sur cela. C'est assez récent, quand on dit Marie épouse de l'Esprit Saint. Alors, on est tenté de montrer le rapport premier de Marie avec l'Esprit Saint. Alors qu'il faut comprendre que de dire Marie épouse de l'Esprit Saint, c'est tout simplement comprendre que en Marie se réalise de la manière la plus parfaite l'alliance de Dieu avec l'homme. Mais ce lien de Marie avec l'Esprit Saint, j'allais dire, est l'effet de son lien avec le Père. Parce que c'est le Père qui lui envoie l'Esprit. Vous allez comprendre, j'espère, c'est que le lien avec le Père, c'est au niveau de son amour à l'égard de Dieu. Tout s'achève auprès du Père. Et tout s'achève dans le Père. Vado ad Padrem. Je vais vers le Père. Et chacun d'entre nous, il y a le Vado ad Padrem, le retour vers le Père. Et pour toute l'Église aussi. Sûrement que dans la dernière période du pèlerinage de l'Église sur la terre, ce retour vers le Père doit être particulièrement explicite et fort dans son intensité. Je crois qu'il faut bien comprendre ça. Et c'est ce que nous voyons actuellement. On le sent très fort. C'est auprès du Père, ce lien de Marie avec le Père, que nous pouvons le mieux expliciter la charité, l'agapé dans le cœur de Marie, dans sa volonté à l'égard de Dieu. Quand je dis Marie, épouse de l'Esprit Saint, c'est surtout pour expliciter le rôle de Marie dans la charité fraternelle. Il me semble bien. Au point de vue théologique. Et cela, alors, jette une grande lumière sur le mystère de Marie. Vous voyez, les deux maternités, il y en a une qui est tout proche du Père et l'autre qui est, l'autre aussi est proche du Père, mais par l'intermédiaire de l'Esprit Saint, si j'ose dire, elle s'explicite dans la charité fraternelle. Alors ça nous aide à comprendre ce que nous voulons dire quand nous disons Marie, épouse de l'Esprit Saint. Ça veut dire que l'Esprit Saint, dans toute sa manière de conduire l'Église et de nous conduire, aime de se servir de Marie. Il aurait pu agir autrement, c'est ce qu'il fait. Il aime de se servir de Marie pour être plus proche de nous, j'allais dire plus, pour que nous soyons plus proches de lui. Comme une sorte de mystère d'adaptation. C'est dans cet ordre-là que nous devons comprendre. Donc c'est bien celui de la charité fraternelle. C'est pour que la charité fraternelle puisse s'emparer davantage de notre cœur. L'Esprit Saint se sert de Marie chaque fois qu'il peut. Donc tout le temps. Et ceci pour faire que Marie soit pleinement, divinement formé par lui. Mais aussi, pour que Marie puisse vivre de la manière la plus parfaite sa relation vers le Père, sous le souffle de l'Esprit. Cette relation vers le Père qui est l'ultime moment de la vie de l'Esprit Saint et de Jésus. Ce que l'Esprit Saint est à Marie, comme celui qui se sert d'elle, qui l'accompagne toujours et qui lui demande une très grande docilité. Je crois que tout ce que nous connaissons de Marie à travers l'Écriture nous aide à comprendre cette docilité extraordinaire de Marie à l'égard de l'Esprit Saint. Pourquoi croire que la vie de la Sainte Vierge était facile ? Je crois que c'est la vie qui, au plan humain, a été la plus difficile, a exigé la plus grande intelligence, la plus grande lucidité. Et par le fait même aussi les plus grandes luttes. Et donc, l'aide apportée à Marie par l'Esprit Saint est sûrement quelque chose de très unique. Bien tout ce que l'Esprit Saint fait pour Marie, il le fait pour l'Église. Et la conduite de l'Esprit Saint sur l'Église qui nous est montré à travers l'Apocalypse nous montre cette sollicitude merveilleuse de l'Esprit Saint sur l'Église de la très sainte Trinité. Et ceci pour nous apprendre à lutter contre quelqu'un qui a une intelligence plus grande que nous, mais qui n'a plus d'amour, pour lutter contre celui qui est anti-trinitaire. Ça nous est montré dans l'Apocalypse, puisque c'est le dragon, le serpent, l'adversaire, les trois noms qui sont donnés dans l'Apocalypse aux démons. Le serpent, il est anti-verbe, le dragon anti-père et l'adversaire anti-l'Esprit-Saint. Alors là aussi, il y aurait tout un aspect très important à bien voir, l'action de l'Esprit-Saint dans ce grand combat de l'Église et dans ce combat que chacun d'entre nous devons subir à la suite de Marie. Alors je m'arrête pour vous montrer que c'est pas fini. Je vous remercie de la manière dont vous avez suivi et supporté les petits inconvénients de la route. Inconvénients techniques, inconvénients de groupe aussi.